Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue au programme de ce mardi 14 octobre avec vous. Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports et comme chaque mardi, le journal de la semaine politique. Et on passe au titre du journal de ce mardi. Le sommet pour la paix à Gaza s'est tenu en Égypte où Donald Trump a proclamé la paix pour le Moyen-Orient. Les dirigeants de plus de 20 pays ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, étaient sur place. En France, le gouvernement Le Cornu II, avec 34 ministres nommés, le premier ministre Sébastien Le Cornu a proposé un mélange de sociétés civiles avec des profils expérimentés et de jeunes parlementaires. La chef du Parti libéral en Australie, Susan Lee, a annoncé des changements majeurs au sein de la coalition avec un remaniement des postes. Et on passe au journal de ce mardi. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi affirme qu'une solution à deux États est le seul moyen de réaliser les ambitions des Palestiniens et des Israéliens et de vivre en paix. Le dirigeant a signé un accord de cessez-le-feu à Gaza aux côtés du président américain Donald Trump, du président turc Tayyip Erdogan et de l'émir du Qatar, Sheikh Ben Hamad Al Thani, lors d'un sommet international pour la paix tenu en Égypte. Le président égyptien a déclaré que l'Égypte travaillerait avec les États-Unis dans les prochains jours pour établir les bases communes de la reconstruction de la bande de Gaza.
From this perspective, while the people of the region all enjoy and continue to enjoy their right to independent national states, the Palestinian people are no exception. They too have the right to determine their destiny and look forward to a future free from the specter of war. They also have the right to enjoy freedom and to live in their independent state, a state that lives side by side with Israel in peace, security and mutual recognition.
Et on écoute maintenant le président des États-Unis, Donald Trump.
And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity.
Le Hamas a libéré hier les 20 derniers otages vivants qui étaient retenus dans la bande de Gaza. En échange, Israël a déjà libéré près de 2000 prisonniers détenus dans ses prisons. En France, le gouvernement Le Cornu II, avec 34 ministres nommés, le premier ministre Sébastien Le Cornu a proposé un mélange de sociétés civiles et avec des profils expérimentés et de jeunes parlementaires pour son deuxième gouvernement qui doit se réunir pour la première fois en Conseil des ministres ce mardi. Valérie Gasse, Radio France Internationale.
Renouveler, c'était l'engagement du Premier ministre. Sébastien Lecornu a donc ouvert son gouvernement à des personnalités de la société civile pour le déconnecter de l'emprise des partis, avec des experts issus du monde de l'entreprise. Par exemple, Jean-Pierre Farandou, ancien dirigeant de la SNCF qui arrive au travail. Serge Papin, qui vient de Système U, prend en charge les petites et moyennes entreprises. L'éducation revient à Édouard Geffray, ancien directeur général de l'enseignement. La transition écologique à Monique Barbu, ancienne présidente du WWF. Le signal est clair, essayer de marquer une rupture. Il se traduit aussi par le départ de poids lourd. Bruno Retailleau, bien sûr, qui est remplacé par Laurent Nunez, actuel préfet de police de Paris, qui arrive premier dans l'ordre protocolaire. Mais aussi Manuel Valls, Agnès Pannier-Runacher et Elisabeth Borne, qui sortent de ce gouvernement. Stabilité en revanche à Bercy. Roland Lescure, nommé la semaine dernière, reste à l'économie et Amélie de Montchalin au compte public. Le ministère stratégique des armées revient à Catherine Vautrin. Malgré la consigne de non-participation du parti, 6 ministres des Républicains sont dans l'équipe, notamment en entrant le député Vincent Jeanbrun à la ville. Quelques macronistes historiques comme le député Renaissance David Amiel font leur entrée, de la rupture et de la continuité.
Le parti Les Républicains, le parti de droite, a réagi très vite en respectant sa ligne de non-participation et a exclu les 6 personnalités de ses rangs nommées à des postes de ministres. Précision de Raphaël Delvolvé pour RFI.
La journée a commencé par les mots d'un homme jusque-là mutique, Emmanuel Macron, à la sortie de son avion, arrivé en Égypte pour un sommet sur Gaza.
Les forces politiques qui ont joué la déstabilisation de Sébastien Lecornu sont les seuls responsables de ce désordre. Moi j'assure la continuité, la stabilité, je continuerai de le faire.
Le président assume le chaos, ça n'est pas lui. Il vise entre autres un homme, Bruno Retailleau, désormais ex-ministre de l'Intérieur, sorti du gouvernement et prêt à jouer un rôle à la tête de son parti, les LR.
Aujourd'hui, c'est tout aussi librement que je quitte notre ministère, mais je continuerai à servir notre pays, mais autrement.
Sa famille demeure fragilisée, 6 membres ont été exclus, ceux qui siégeaient autour de Sébastien Lecornu dans l'après-midi. Le chef du gouvernement réunit ses ministres pour la première fois à Matignon.
Notre seul objectif est évidemment de dépasser cette crise politique dans laquelle nous nous trouvons.
Demain, premier conseil des ministres, suivi de la très attendue déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Ce lundi, LFI et RN ont déjà déposé leur motion de censure en espérant que les socialistes, hésitant jusque-là, votent l'une des deux. Jordan Bardella du Rassemblement National s'adresse au PS.
Le Parti Socialiste doit sortir de l'ambiguïté. Sont-ils avec Emmanuel Macron ou sont-ils dans l'opposition à Emmanuel Macron ?
De quoi jeter les bases d'une nouvelle semaine décisive sur une scène politique française déjà bien secouée.
Et puis l'ancien chef d'État, Nicolas Sarkozy, a été convoqué hier par le parquet national financier qui lui a notifié la date et les conditions de sa détention. L'ex-président de la République sera incarcéré le 21 octobre à la prison de la Santé à Paris. Baptiste Coulon pour RFI.
L'ancien président sera incarcéré à la prison de la Santé au sud de Paris. Son rendez-vous avec les magistrats financiers a duré une demi-heure à la mi-journée. Aucune prise de parole de sa part à l'issue de cette convocation, ni d'ailleurs de ses avocats que nous avons sollicités. 2 possibilités d'incarcération sont envisagées pour Nicolas Sarkozy. La première, un placement dans un quartier pour personnes vulnérables, des cellules de taille classique qui accueillent des détenus sensibles, personnalités politiques ou médiatiques. Un quartier où l'on n'est pas totalement coupé du reste de la population carcérale. Seconde option, l'isolement. Aucun contact avec les autres détenus, uniquement avec le personnel pénitentiaire. Dans les 2 cas, on est emprisonné seul, en cellule. Ce n'est pas un traitement de faveur accordé à l'ancien président dans un contexte de surpopulation carcérale, mais bien une mesure pour assurer sa sécurité. Combien de temps restera-t-il en prison ? C'est désormais la question. Nicolas Sarkozy doit théoriquement purger une peine de 5 ans d'emprisonnement, mais ses avocats pourraient déposer une demande de remise en liberté dès le début de sa détention. La Cour d'appel de Paris aurait alors 2 mois pour apporter une réponse.
En Australie, la chef du Parti libéral, Susan Lee, a annoncé des changements au sein de la coalition avec un remaniement des postes. Le sénateur de Tasmanie, Jonathan Dunham, est devenu ministre de l'Intérieur du cabinet fantôme après la démission de Andrew Hastie la semaine dernière. Julian Lisa prendra le portefeuille de l'éducation et de l'éducation préscolaire et va conserver son poste de porte-parole de l'opposition pour les arts. Andrew Wallace est porte-parole des affaires juridiques. Google a déclaré lors d'une audition au Sénat à Canberra que les nouvelles règles gouvernementales interdisant au moins de 16 ans de posséder un compte sur les réseaux sociaux seraient extrêmement difficile à appliquer. Lors d'une audition de la commission d'enquête du Sénat sur la nouvelle législation, le responsable des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google et de YouTube pour la région a été entendu. Rachel Lord affirme que des protections sont déjà en place pour les utilisateurs qui se connectent sans compte sur YouTube.
We block access to age-restricted content for all logged-out users. So that's content that is more suitable for mature audiences. That is also blocked for under 18 account holders as well. And we also disable what we call participation features. So in a logged-out format, you're unable to do things like upload videos or to comment on videos.
Qantask risque de lourdes sanctions après que des pirates informatiques ont divulgué en ligne les données personnelles de près de 5,7 millions de clients. La compagnie était l'une des 6 entreprises mondiales ciblées par le groupe informatique Scattered Lapses Hunters qui a divulgué ces informations après une menace de rançon. La faille proviendrait de l'un des centres d'appel offshore externalisés de Qantas utilisant le logiciel Salesforce et aurait révélé les noms complets, les coordonnées, les dates de naissance et même les préférences alimentaires des gens. Le ministre de la cybersécurité, Tony Burke, a déclaré sur ABC Radio que l'externalisation de ces services ne dégageait pas Qantas de sa responsabilité de protéger les données de ses clients.
There are very serious penalties. The obligation can't be outsourced. The obligation remains with these companies. It's not enough just to say, oh, we've spent a whole lot of money on making sure that we've got really good firewalls in our systems and all of that. It's also making sure you have the human firewall. And that is making sure that your staff the whole way through the business are properly trained and know to make sure that there's nothing they do that could inadvertently allow these sorts of attacks easy access.
La décision controversée du gouvernement fédéral d'approuver l'extension d'une usine à gaz en Australie-Occidentale est contestée devant la Cour fédérale. L'Australian Conservation Foundation a intenté une action en justice, arguant que le ministre a omis des détails cruciaux dans sa décision concernant l'extension du plateau continental du nord-ouest de la compagnie Woodside, l'un des plus grands projets de gaz naturel liquéfié au monde. Cette prolongation jusqu'en 2070 a suscité une vive réaction de la part des groupes de protection de la nature et des communautés des Premières Nations préoccupé par les impacts sur l'art rupestre ancien. Adam Beeson est le conseiller juridique de l'Australian Conservation Foundation.
The Australian Conservation Foundation is challenging the lawfulness of the minister's decision. The minister decided that the climate change impacts of this project were not relevant to his decision to approve this project. We think that was wrong. And if successful, this case could reshape the way that climate impacts are assessed in Australia. We also think the minister made legal mistakes when he waved through this project because he didn't understand with any precision what gas will actually be processed at this facility.
Le trésorier fédéral a déclaré que les modifications apportées à la politique de retraite visent à améliorer le système et à le rendre plus équitable. La réduction d'impôt sur la retraite pour les personnes à faible revenu passera de 500 à 810 dollars. Le seuil d'éligibilité passera de 37 000 à 47 000 dollars à compter du 1er juillet de 2027 pour les 3,1 millions d'Australiens éligibles à cette réduction. Cette modification devrait ajouter environ 15 000 dollars supplémentaires à l'âge de la retraite. Le trésorier Jim Chalmers a également annoncé des modifications des allègements fiscaux pour les Australiens dont le solde de la retraite est plus élevé.
For superannuation earnings on super balances between 3 and 10 million dollars, the rate remains 30%. The rate for over 10 million dollars becomes 40%. So this is still a concessional tax arrangement, but it's better targeted. It will still only impact less than 0.5% of Australians.
Ted O'Brien, porte-parole de l'opposition au Trésor, estime que ces changements constituent un recul embarrassant pour le gouvernement. Il ajoute que les changements auraient également des répercussions sur le budget.
Now the Treasurer has to explain where he's going to get $4 billion to plug the black hole that now exists in the budget. Today's decision creates that black hole. At this stage, all we know is the Treasurer will go after other people with higher taxes, or he'll just throw it on the national credit card and leave it to the next generation of Australians to pay off.
Un groupe international de 160 scientifiques affirme que les récifs coralliens ont franchi un seuil critique, ce qui risque de compromettre les moyens de subsistance de centaines de millions de personnes. Le rapport mondial sur les points de basculement révèle que plus de 80% des récifs de la planète ont subi un blanchissement au cours des deux dernières années. Le blanchissement reflète le dépassement du seuil critique de 1,2 degré de réchauffement climatique, alors que le réchauffement climatique est actuellement de 1,4 degré. Andrea Rivera Sosa de l'ONG environnementale Coral Reef Alliance affirme que les coraux ne peuvent tout simplement pas résister à la hausse des émissions.
We need stronger regulations for reducing greenhouse emissions. We definitely need this, and we need the commitments from the countries. The countries that are most affected, like the small island states, are all on board, but we need the larger countries that produce a lot of these greenhouse emissions to also support and create policies to lessen their impact.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 25 degrés. Adelaide, 21. Melbourne, 21. Hobart, 18. Canberra, 21. Sydney, 27. Brisbane, 30. Darwin, 34. Et à Alice Springs, maximal de 32 degrés. Fin du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et 16 minutes et on passe au journal des sports et vous êtes en compagnie de notre collègue Christophe Mallet.
Journal des sports, on débute avec du football et les qualifications pour la Coupe du Monde de l'année prochaine. La Coupe du Monde que je vous rappelle, vous pourrez suivre en intégralité et gratuitement sur SBS. Et bien ces qualifications, avant de parler de la France, on va parler du Cap-Vert, l'exploit du petit pousset du football mondial. Le Cap-Vert se qualifie pour la première fois de son histoire pour la Coupe du Monde. Olivier Prom.
Et c'est l'une des plus belles histoires du football, puisque c'est une première. Le Cap-Vert se qualifie donc pour le mondial au nez et à la barbe notamment du Cameroun. À Praia, dans un stade en fusion, les requins bleus ont dominé Eswatini 3-0, assurant ainsi la première place de leur groupe. 4 longueurs devant les lions indomptables, tenus piteusement en échec à Yaoundé 0-0 par l'Angola. Les Capverdiens au mondial, incroyable pour un pays de 520 000 habitants qui entre dans l'histoire en devenant le plus petit en termes de superficie à rejoindre le plus grand événement sportif de la planète. 10 îles en tout, couvrant 4000 km², 10 îles en fait. Ce soir, les entreprises avaient été autorisées à fermer à la mi-journée pour permettre à chacun de suivre la rencontre et de trembler au cours d'une première mi-temps poussive de leur protégé. Et la qualification s'est décantée en quelques minutes au retour des vestiaires. Livramento puis Semedo libèrent leurs supporters avant que Stopira, en fin de match, ne scelle le score. Le Cap-Vert, 70e au classement FIFA, rejoint donc le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte et le Ghana sur la route des Amériques. Vous l'avez dit, en juin prochain, le Cameroun reste à quai temporairement en tout cas, car ce nul devrait permettre aux Lions de finir parmi les 4 meilleurs deuxièmes et donc de les qualifier pour le barrage de novembre.
Voilà donc l'exploit du Cap-Vert pour le continent africain, une superbe qualification qui a déchaîné les foules bien sûr sur l'île du Cap-Vert. Donc c'était incroyable à voir. Je vous conseille vraiment d'aller sur les réseaux sociaux si vous souhaitez voir de la liesse populaire. Allez, on continue sur ces qualifications pour le mondial et la France qui bute contre l'Islande 2-0. partout, Antoine Grenier.
Et pourtant, à la 68e minute, les Bleus avaient pensé avoir fait le plus dur, prendre l'avantage enfin 2-1 face à une Islande ultra réaliste. Des Islandais qui n'avaient eu besoin que d'une petite occasion à la 39e pour ouvrir le score. Coup franc concédé par William Saliba, le ballon cafouillé sur la ligne des 6 mètres par Kamavinga et Paulsen, le défenseur de l'Islande qui se jette pour glisser le ballon au ras du poteau de Mike Maignan. 1-0, le seul éclair d'une première mi-temps pauvre en occasion, mais qui avait vu les Bleus par Nkunku puis Mateta buter sur le gardien ou un défenseur adverse. 1-0 donc à la pause. Et puis, une réaction d'orgueil française. Peu après l'heure de jeu, Christopher Nkunku, lancé par Lucas Digne, dribble un défenseur et enroule sa frappe du droit dans le petit filet opposé. Pur produit de la formation Bellefontaine, l'ancien parisien égalise 5 minutes avant que Jean-Philippe Mateta ne s'offre son tout premier but en bleu à la réception d'un centre parfait du nouvel entrant, le monégasque Marnes Akliouche. Un avantage qui n'aura finalement tenu que 30 petites secondes à peu près, puisque sur l'action suivante, Linsson, l'attaquant islandais, conclut une contre-attaque éclair. Ça fait 2-2. Les Bleus laissent ainsi échapper 2 points à Reykjavik et voient revenir l'Ukraine à désormais 3 longueurs dans le groupe D après son succès 2-1 sur l'Azerbaïdjan. La réception des Ukrainiens mi-décembre au Parc des Princes sera donc décisive. En tout cas, elle sera très importante en vue de la qualification pour la Coupe du Monde.
Antoine Grenier donc, et la France qui n'est toujours pas qualifiée, qui jouera cette qualification, donc vous l'aurez compris, dès le mois de novembre dans le prochain groupe de qualification. Ce match a frustré plus d'un, notamment l'entraîneur ou le sélectionneur français Didier Deschamps. On l'écoute.
Frustration, je ne sais pas si c'est de la frustration. Après le deuxième but, voilà,
Vous étiez très en colère, vous avez dit chez nos confrères TF1.
Non, on ne doit pas le prendre. À ce moment-là, après avoir égalisé, qu'on se fasse transpercer, mal positionné aussi haut, on avait fait ce qu'il fallait pour mener, le prendre comme ça, même si c'est l'adversaire qui l'a marqué, Mais bon, on a ouvert un peu les portes. Comme en ayant revu plusieurs fois, leur premier but m'énerve aussi un petit peu parce que. Il y a quand même une
ça
faute.
Ça fait beaucoup d'énervement quand même.
Non, m'énerve, mais c'est qu'il y a faute. Après, bon, je ne vais pas en vouloir à l'arbitre non plus. Il mène 1-0 à la mi-temps sans avoir d'occasion pratiquement. Nous, on n'en avait pas beaucoup. On en a eu plus en deuxième parce qu'on a réussi à mettre un peu plus de percussion, de vitesse. Et le but que marque Christopher, c'est sur des actions comme ça ou des centres qu'on n'a pas mis assez rapidement aussi. On avait fait ce qu'il fallait en deuxième mi-temps, en menant, mais bon, voilà, si on pouvait gagner tous les matchs, on fait en sorte, mais il y a des adversaires aussi, et cette équipe d'Islande a confirmé ce soir ce que j'avais vu contre nous, et ce qu'ils ont eu, aujourd'hui, l'efficacité qu'ils ont eu, ils ont deux frappes cadrées, deux buts.
Didier Deschamps, le sélectionneur français, on écoute également le joueur de l'équipe de France, Jules Koundé.
C'est de la déception, de la frustration surtout, parce que j'ai le sentiment que on avait fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Je pense qu'on s'est créé sur l'ensemble du match suffisamment d'occasions pour gagner ce match. On avait fait le plus dur et on a un relâchement, on se déconcentre un peu sur ce deuxième but. Et puis ils n'ont pas eu grand-chose. Ils ont eu une demi-occasion sur le premier but et puis ce deuxième but, mais sinon pas grand-chose. Donc c'est frustrant parce qu'on avait envie de faire le plein de points et de terminer ce rassemblement avec 12 points. Mais l'Ukraine avait gagné. Dans tous les cas, il aurait fallu aller se qualifier en novembre. Mais voilà, confiant et que nous allons le faire en novembre. Je pense qu'il faut toujours être exigeant, c'est une bonne chose, que le public soit exigeant. Même s'il y avait de nombreux absents, des joueurs de qualité, on en a dans cette équipe aujourd'hui. Donc on se doit de mieux faire aussi. Je pense que ils nous ont bien gênés en jouant à 5 et on a eu un peu du mal à trouver la faille en première mi-temps parce qu'on était des fois mal positionnés. Et en deuxième mi-temps, je pense qu'on a fait beaucoup mieux. On s'est créé encore une fois suffisamment d'occasions, hein, même en première mi-temps. Je pense qu'on a 6-7 occasions franches quand même dans ce match. Donc c'est pas satisfaisant parce qu'il n'y a pas le résultat et parce qu'on aurait aimé mieux jouer, mais tout n'est pas à jeter.
Jules Koundé, donc plutôt lucide, frustré quand même un petit peu sur le match nul de partout de l'équipe de France dans ses qualifications pour le Mondial. On continue sur le football et le gardien de l'équipe de France, Mac Maignan, s'est exprimé sur l'idée d'avoir un match de la Serie A, le championnat italien, qui se jouera à Perth, probablement en tout début février. Un match du Milan AC contre Bologne et donc le portier du Milan AC, Mac Maignan, n'est pas du tout content avec ses décisions.
Et concernant Adrien, ce qu'il a dit, je suis totalement d'accord avec lui. Aujourd'hui, on oublie pas mal de choses. On pense beaucoup à l'aspect financier, mais ça reste un match de championnat italien. Je comprends pas pourquoi il joue à l'étranger. En plus de ça, c'est un match qu'on devait jouer à domicile. Donc on perd un match à la maison et on sait que nos objectifs sont élevés et il faut rien laisser au hasard.
Mike Maignan, donc le gardien de l'équipe de France et également gardien du Milan AC. Allez, un mot de tennis pour conclure ce journal et la très belle histoire du week-end. Valentin Vachereau remporte le Masters 1000 de Shanghai. Une surprise et il jouait devant son cousin dans cette finale du tournoi de Shanghai, Sofiane Amazian.
Jamais un joueur classé aussi bas n'avait remporté un Masters 1000. Valentin Vachereau, premier monégasque à être titré sur le circuit principal, va devoir prendre du temps pour digérer car son épopée chinoise a tout d'une fiction. Mis en difficulté lors des phases de qualification, le joueur de 26 ans a enchaîné les tours et les têtes de série. Personne ne lui résiste, même Novak Djokovic, vainqueur de 24 titres du Grand Chelem et impuissant en demi-finale devant l'audace du monégasque. Imperturbable, Valentin Vachereau joue le tennis de sa vie comme son cousin dans l'autre partie de tableau, le français Arthur Rinderknecht. Deux cousins très proches dans la vie, pas vraiment programmés à se retrouver en finale d'un des plus grands tournois du circuit. La cousinade a tourné en faveur du plus jeune au terme d'un match éprouvant remporté au meilleur des trois manches. Des larmes ont coulé à la remise des trophées, des deux côtés déchirés entre la fierté et la frustration. Valentin Vachereau vient de se faire un nom et une place parmi les meilleurs au monde, lui, qui deviendra ce lundi 40e au classement ATP.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Le Français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
h 30 et on passe à la semaine politique comme chaque mardi et vous êtes en compagnie de Patricia Meunier et de Christophe Mallet.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Il est temps de passer à la rubrique politique aujourd'hui, en ce mardi, avec Patricia Meunier. Et les premières phases du plan de paix de Gaza se mettent en place. Près de 2000 prisonniers palestiniens sont sortis des prisons de l'État hébreu après que le Hamas ait relâché les 20 otages israéliens encore vivants hier lundi. Les explications donc de Patricia Meunier.
Le moment est historique et restera dans les livres d'histoire. Après 734 jours de bombardements et de deuil des deux côtés du conflit entre Israël et le Hamas, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur vendredi dernier à 11h. Les troupes israéliennes ont commencé à se retirer de plusieurs zones de la ville de Gaza, notamment la défense civile de Gaza a affirmé que plus d'un demi-million de personnes déplacées étaient revenues dans le nord des territoires palestiniens occupés depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le président des États-Unis, Donald Trump, s'est dit confiant sur la tenue de la paix. Il a remercié le soutien des pays comme le Qatar, la Turquie et l'Arabie Saoudite tout au long des démarches pour la paix.
We ended the war in Gaza and really, on a much bigger basis, created peace. And I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East. We secured the release of all of the remaining hostages.
En Australie, Michaelia Cash, la responsable des affaires étrangères de l'opposition, affirme que l'accord signé est source d'espoir sur l'île continent et dans le monde entier. Un sentiment que partage le Premier ministre australien Anthony Albanese. On l'écoute.
In the Middle East, the past 2 years have been full of dark days. Today, we see a ray of light. Today, the world has cause for real hope. Hope for the families of the hostages who have kept a 2-year vigil that must have felt like an eternity. Hope for the people of Gaza who have endured suffering beyond imagining. And hope that after 8 decades of conflict and terror, we can break this cycle of violence and build something better.
Cependant, la date du début du retrait des troupes israéliennes jusqu'à la ligne jaune à Gaza, frontière prévue pour un premier retrait israélien dans le cadre du plan Trump, reste encore incertaine. Malgré un accord de paix, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que des opérations militaires israéliennes se poursuivaient encore.
In Gaza, and our colleagues at the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs tell us that Israeli military operations have continued, including in the Rimal and Zaytun neighborhoods in Gaza City, making the already dire humanitarian situation even more perilous.
Pour l'avenir, Donald Trump a donné des précisions au sujet de la reconstruction. Il a expliqué que les riches pays arabes vont contribuer au financement pour rebâtir Gaza. De leur côté, les États-Unis vont œuvrer pour garantir la sécurité et la stabilité dans la région. Pour l'heure, en Australie comme ailleurs dans le monde, les manifestations pro-Palestine ne se sont pas arrêtées avec la paix. Dimanche, une marche qui voulait initialement se diriger vers l'opéra a parcouru le centre-ville de Sydney. Des manifestations ont aussi eu lieu dans plusieurs autres villes australiennes.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Vous écoutez le programme en français. Et je passe maintenant l'antenne à notre collègue Bertrand Tungandamé qui a rencontré Lamine et Awa Sanko qui vont nous parler du spectacle Gouel. Gouel qui signifie griot en Wolof. Il parle des liens culturels entre le Sénégal et l'Australie.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
À l'occasion de la première mondiale de Gouel, nous avons le plaisir de recevoir Lamine Sanko, artiste interdisciplinaire, et sa sœur Awa Sanko, danseuse et chorégraphe, héritier d'une lignée d'artistes, je dirais, aristocratiques, tout droit du Sénégal. Et ensemble, ils signent une œuvre totale où rituel, musique, danse et images se fondent pour inviter le public à un voyage à travers une cosmovision africaine ancestrale. Awa et Lamine, bonjour et bienvenue sur SBS French.
Merci beaucoup Bertrand, merci.
Bonjour à vous et merci pour l'invitation. C'est un honneur, plaisir d'être sur votre radio. Et Lamine m'en a beaucoup parlé d'ailleurs en bien. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation.
Je commencerai par Lamine. Comment l'idée de créer ce projet Gouel vous est venue?
Gouel nous parle de l'histoire du Sénégal et l'histoire des Gouel du Sénégal. Les Gouel sont plus connus par le nom griot. Griot en Wolof, c'est Gouel. Si on regarde l'étymologie de ce mot Gouel, ça veut dire de créer un cercle. Mais cette cercle, c'est un cercle ancestral, l'arbre à palabres pour vraiment faire revivre et faire raconter à l'histoire de nos ancêtres.
Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'artiste de prolonger donc cette tradition des griots, un art qui plonge ses racines dans l'histoire millénaire du Sénégal, et d'apporter ce savoir dans un contexte contemporain, donc en 2025?
On est en train de continuer ce qu'on a appris à travers nos parents, parce que notamment notre père Boulou Sonko était le directeur du Théâtre National d'Agnès Sorano, et notre maman Oumi Sène était l'une des très grandes danseuses de la culture sénégalaise. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire revivre et continuer cette mission que nos parents nous ont passée à travers l'art. Parce que quand on parle de l'art, c'est l'espace des artistes. C'est là-bas qu'on vraiment essaie de plonger le savoir de nos ancêtres en utilisant la danse, les masques et aussi l'audiovisuel. On essaie de connecter vraiment ce qu'on sent et ce qu'on peut faire en mouvement. Je pense que Awa peut élaborer parce que c'est la grande sœur et elle a aussi beaucoup à faire dans le monde artistique. Donc Awa, à toi.
C'est un honneur en fait de partager le même plateau parce qu'on l'a fait il y a longtemps étant jeune. Parce que Lamine porte l'héritage familial, l'héritage des ancêtres, l'héritage africain, notamment sénégalaise. On est né dans la famille qu'on a, la maman qui nous a portés, plus le papa, c'est des grands artistes au Sénégal. Ils ont beaucoup fait pour la culture africaine et sénégalaise. Ils ont voyagé beaucoup. Je pense que Lamine vous l'a déjà dit, qu'ils ont fait le tour du monde. Et tout ça pour amener l'héritage des ancêtres à travers le monde. C'est ce que Lamine fait à travers Guéwel. Il continue le travail que les parents nous ont laissé comme héritage. Je sais que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de réflexion et tout ça. Et pour ça, on lui en remercie, nous. On dit souvent que c'est le génie de la famille, Sonko. Pour venir à votre question tout à l'heure sur l'art et aussi sur la culture et l'héritage des ancêtres, on est fiers de le porter, notamment Lamine, à travers Guéwel. Guéwel, ça nous ramène à l'histoire des ancêtres, ce qu'on doit apprendre, ce qu'on a délaissé et ce qu'on doit suivre comme chemin. En tout cas, pour ça, merci beaucoup, Sonko.
Vous venez de mentionner quelque chose d'extrêmement important. Vos parents, Oumi Séné et Bouli Sonko, sont de très grands artistes. Parlez-nous du rôle de vos parents dans ce parcours artistique exceptionnel que vous avez mené, dont l'un des fruits, c'est Guéwel. Notamment.
Parler à nos parents, c'est quelque chose très grand. Je peux dire, notre papa Bouli et notre maman Oumi, ils ont beaucoup travaillé avec le président Senghor. Avant 1960, Sénégal n'avait pas son indépendance. La culture a été un peu comment on peut le dire, oppressée quoi. En 1960, avec la vision du président Senghor, il a fait créer le Théâtre National d'Agnès Sorano pour essayer de créer un jumelage culturel entre le Sénégal et le monde, et aussi d'essayer de faire véhiculer la culture, parce que maintenant, si on voit ce qui se passe dans le monde avec la globalisation, comment on le dit en français, la culture des Guéwel, la culture des griots est en danger, parce que c'est des traditions orales. Et ces traditions orales, à ce moment, is facing a big, big, big problem. Pour essayer de le faire revivre ou de continuer la continuation culturelle de ce qu'on a appris ou ce qu'on a été inspiré par nos parents, c'est à travers les spectacles. Et c'est ça qu'ils ont fait à leur temps. En 1960, il y avait le Ballet National du Sénégal, il y avait le Ballet National du Guinée-Bissau et aussi Mali. Donc, c'était des moments de faire vivre la culture africaine. Et à ce moment aussi, c'était le same time as the Negritude Movement, le mouvement de Negritude, qui a été dirigé par Aimé Césaire. Hein? On peut citer Aimé Césaire, on peut citer C'était l'Euro Senghor, hein. Donc, ça, c'était dans les années 1930. Donc, c'était à ce moment-là que ces génies ont été, ils essayaient de faire, comment le dire, to bring back the pride of being, to be African.
Vous avez évoqué donc le Théâtre National du Sénégal. Il y a certains des artistes qui vont d'ailleurs venir en Australie pour la première internationale des QL. J'espère que nous aurons l'occasion aussi de le recevoir sur nos antennes, mais un petit mot sur ces artistes et aussi leur apport à ce projet exceptionnel.
Oui, les artistes qui vont venir du Sénégal, on a Dixen. Dixen est un grand artiste serrure qui joue le riti. Le riti, c'est un violon traditionnel qui est vraiment très cool instrument. Ndik est vraiment connu dans le monde serrure, qui est un gardien de la savoir des esprits serrure. Et aussi, on a Aziz Ngom. Aziz Ngom est un grand master percussionniste qui joue le sabar. Il est un master du sabar drum et aussi il est très connu sur le monde des rythmes rituels ndop. Ndop, c'est un rituel, comment le dire en français, ndop, c'est well-being.
Like, oui, c'est les danses rituelles. Quand on est en transe et qu'on est, on est possédé par un esprit ou un, voilà.
That's right. So, Aziz est un batteur de ndop et il est vraiment très fort. Et aussi, on a Amin Tassar. Amin Tassar fait l'une des très grandes danseuses du Théâtre National d'Agnès Sorano. Il fait partie du Ballet National La Linguère comme one of the lead dancers. Also, on a Awa Koulibaly. Elle a une background mandingue. Elle partage la danse mandingue du Mali. Elle a beaucoup travaillé et aussi beaucoup voyagé avec le Théâtre National du Sénégal. Donc, il y a quatre artistes qui vont nous rejoindre ici à Melbourne pour cette grande première. Et aussi, il y a Awa, qui est la comment on le dire, the lead dancer. Avec Awa, ces quatre artistes, on sera une très grande team pour cette grande première.
C'est pas seulement cette première, mais il y a aussi toute une série de spectacles et d'événements autour de ça, notamment cette grande conférence, Lamine. Parlez-nous de ça aussi.
Quand les artistes seront ici pour cette grande première, on a aussi des workshops et on a aussi des conférences académiques. Ce que tu viens de dire, c'est un grand symposium qui aura lieu le 29 octobre à l'Université de Melbourne. Et avec cet symposium, on va avoir des dialogues à travers, comment on va dire, Indigenous African Ways of Knowing. Ce sera des dialogues académiques sur cela et aussi des dialogues artistiques. Donc, il y aura des spectacles et aussi il y aura des panélistes, des académiciens qui vont vraiment présenter leurs recherches sur les problèmes socio-culturels qui se passent en Afrique. Donc, on va parler de l'économie africaine, on va aussi parler de la culture africaine, on va aussi parler de la complex situation of globalization and internationalization dans ces symposiums. Et aussi, il y aura des autres workshops avec des First Nation artists ici en Australie. Donc, on est en train de vraiment connecter la savoir ancienne africaine et aussi la savoir ancienne des aborigènes d'Australie pour vraiment faire connecter les deux pays.
Enfin, Goël, première mondiale dans quelques jours, et après cela, qu'est-ce qu'il y a comme vision pour ce projet exceptionnel?
On va faire la grande première ici en Australie et après on veut faire tourner Gewell internationally et on peut aussi, on va faire retourner Gewell au Sénégal pour le partager avec le public sénégalais. Et aussi il y a beaucoup d'autres projets qui sont liés avec Gewell. On va faire sortir nos recherches sur des livres pour vraiment, comme ça les gens peuvent lire un petit peu sur les recherches. Et aussi, on est en train de collaborer avec AWA pour voir comment on peut ouvrir des centres de danse pour vraiment apprendre les gens comment se reconnecter avec cette cosmovision. Et aussi, on est en train de produire un autre film pour vraiment montrer d'autres phases de cette savoir et de ces mémoires de nos ancêtres. Mmh.
Parce que là, il est humble, il va pas tout vous dire. Le côté Gueul, il l'a pris du côté de la maman, l'héritage de la mère. Mais maintenant, il fait aussi des recherches du côté du papa, parce que l'héritage aussi est aussi riche.
Avant de nous quitter, un mot de la fin à vous deux, un ou deux mots pour nos auditeurs.
Merci en tout cas pour l'invitation. Merci aux frérots de me faire partager ces expériences et aussi merci à vous, les auditeurs.
Merci beaucoup et merci à SBS pour cette opportunité de vraiment partager nos projets et aussi d'inviter vos audiences de venir expérimenter la culture africaine. Donc, merci beaucoup, Bertrand.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Vous écoutez le programme en français. Rappel des titres du journal de ce mardi 14 octobre. Le sommet pour la paix à Gaza s'est tenu en Égypte où Donald Trump a proclamé la paix pour le Moyen-Orient. Les dirigeants de plus de 20 pays ainsi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, étaient sur place. En France, le gouvernement Le Cornu II, avec 34 ministres nommés, le premier ministre Sébastien Le Cornu a proposé un mélange de sociétés civiles avec des profils expérimentés et de jeunes parlementaires. La chef du Parti libéral en Australie, Susan Lee, a annoncé des changements majeurs au sein de la coalition avec un remaniement des postes. Et puis un groupe international de 160 scientifiques affirme que les récifs coralliens ont franchi un seuil critique, ce qui risque de compromettre les moyens de subsistance de centaines de millions de personnes. Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. N'oubliez pas d'écouter SBS French les mardis, jeudis, samedis et dimanches à 13h. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi télécharger l'application SBS Audio et vous abonner à SBS French. Vous pouvez également écouter le contenu audio de SBS French à tout moment via YouTube, Apple Podcasts, Spotify et bien d'autres plateformes. Voilà, on se quitte. Belle journée. À bientôt.
Entendre d'autres rubriques comme celle-ci, écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.